Et maintenant, je vous introduis à Simon, qui vient avec Chronique Apatride Anonyme.
Bonjour, c'est le grand retour des Apatrides Anonymes. On a pris des vacances cet été. L'actualité n'en a pas pris, donc il y a beaucoup de sujets à rattraper, énormément de choses qui sont passées durant l'été. Ça a été assez difficile de choisir quel sujet aborder aujourd'hui. Donc, on va y aller avec quelques nouvelles en retard qui ont marqué l'été. C'est une sélection bien personnelle. On va parler du gouvernement fédéral, comme on vous parle à peu près à toutes les chroniques, donc le fédéral et les réfugiés, le fédéral et ses agences de surveillance, le fédéral et ses prisons pour personnes immigrantes. Et si on a le temps, on va parler du système de détention de l'Australie pour les personnes immigrantes. Il s'est passé plusieurs choses. C'est un système qui est assez particulier. Sinon, quelques nouvelles avant d'aborder le gouvernement fédéral. Donc, c'est inévitable à chaque chronique, probablement qu'on va vous en parler, l'exode massif vers l'Europe à partir du Proche-Orient, à partir de l'Afrique du Nord. Les chiffres sont pas beaux, c'est à peu près la même chose que l'année passée, ça a même augmenté. On a déjà plus de 4000 migrants, migrantes qui sont morts depuis le début de l'année, principalement en traversant la Méditerranée. C'est une hausse de 26% par rapport à la même période l'an dernier. Ce sont des chiffres qui sont sérieux quand même, ils sont fournis par l'Organisation internationale pour les migrations. Évidemment, il y a eu... en fait, je me suis un peu trompé. 4000 personnes, c'est pour l'ensemble des personnes mortes migrantes sur la planète, et une vaste majorité se trouve dans les itinéraires classiques depuis quelques années qui s'en vont vers l'Europe. Ce sont des années qui étaient conjugées exceptionnelles durant les années précédentes, mais on constate que c'est une tendance lourde. Donc, de plus en plus, ça devient plus ou moins la norme. Et ce qu'on constate cette année par rapport aux autres années, c'est que l'itinéraire qui partait de la Grèce vers la Turquie pour monter la route des Balkans, la plupart des frontières ont été fermées par différents pays, dont la Hongrie, la Slovénie, la Bulgarie, je crois même l'Autriche. Donc ça a transféré l'ensemble des personnes qui veulent migrer vers l'Europe, ont recommencé à emprunter la route qui part de la Libye et qui va vers l'Italie, donc qui est une traversée beaucoup, beaucoup plus longue et beaucoup plus dangereuse, ce qui fait en sorte que les chiffres concernant le nombre de morts augmentent cette année. Autre nouvelle, c'est une nouvelle toute fraîche. Ben, en fait, c'est à peu près la même chose chaque année. Hier, il y avait le rassemblement de Solidarité sans frontières pour l'éducation des jeunes, des enfants, de personnes dont le statut est irrégulier. Donc, les commissions scolaires continuent de demander des frais d'environ 6 000 $ par enfant, ce qui empêche leurs parents, qui sont pas très riches, de les envoyer à l'école. Donc, année après année, c'est devenu un peu une routine. On exige que le ministre de l'Éducation mette fin à ces inégalités pour que toute personne, peu importe son statut migratoire, ait accès gratuitement à l'éducation publique. Bref, on demande au gouvernement de respecter ses propres lois en garantissant normalement l'éducation accessible et gratuite à tous les enfants, peu importe le parti au pouvoir, peu importe le statut des enfants. Donc, une nouvelle toute fraîche qui est tombée cette semaine, la famille Lakatos, donc les deux femmes Kathleen et Gilda, des femmes roms de Hongrie, qui se battent depuis environ 5 ans pour rester ici à Montréal. Donc, c'est la mère et la fille. Elles ont finalement été acceptées. Leur demande de résidence permanente pour motif humanitaire a finalement, après 3 avis d'expulsion, été acceptée par le gouvernement fédéral. Donc, on les félicite. Elles ont été très patientes. Elles ont fait preuve de beaucoup de courage. Merci aussi, évidemment, à la communauté, à tous les sympathisants, sympathisantes, militants, à Solidarité sans frontières. Mais c'est pas complètement fini pour elles, évidemment. Il y a encore des démarches qui seront longues, qui seront très coûteuses, beaucoup de frais administratifs à venir. En plus, le père et le fils, ou le mari et le frère, dépendamment d'où on se situe, ont été expulsés en mars dernier. Si ils veulent envisager leur retour au Canada, ils doivent rembourser les billets d'avion que le Canada a payés pour leur déportation. Donc, on leur demande 3 000 $ environ. Les deux femmes Lakatos n'ont pas de permis de travail, donc ne peuvent travailler. S'il y en a parmi les auditeurs, auditrices qui voudraient contribuer financièrement, je vous inviterai à aller sur le site de Solidarité sans frontières. On explique comment faire un don. Et malgré tout ça, le Canada de M. Trudeau continue de considérer la Hongrie comme un pays sûr pour tout le monde, dont les Roms, malgré un gouvernement d'extrême droite qui leur est particulièrement et ouvertement hostile en Hongrie. Ottawa, on continue dans notre capitale préférée. Je vais revenir à l'ancien gouvernement, à M. Harper. Ils ont récemment été accusés de discrimination en fonction de la religion. Donc, je m'explique, c'est l'ancien gouvernement qui a exclu des membres de la majorité musulmane, donc selon plusieurs fonctionnaires qui sont confiés anonymement à des journalistes. Donc, entre janvier et novembre 2015, les réfugiés syriens parrainés par le gouvernement fédéral étaient effectivement à très grande majorité chrétienne. J'oserais te dire à totalité de confession chrétienne, mais on n'a pas les chiffres exacts. Ça n'a pas encore été dévoilé publiquement. Il y a une demande d'accès à l'information qui va suivre. Donc, normalement, si on veut discriminer pour des raisons exceptionnelles, on doit créer un programme spécial qui doit être analysé, débattu, qui généralement doit être adopté en chambre selon les procédures parlementaires habituelles. Puis, ben ensuite, lorsque le programme est mis en place, ben il est encadré par des paramètres bien clairs, bien définis, mais il n'y a rien eu de tout ça ici. C'est le gouvernement qui a simplement donné l'ordre à son ministère de privilégier les chrétiens. On se rappelle, Harper, Jason Kenney, Chris Alexander avaient déjà affirmé publiquement dans des points de presse ou lors d'entrevues qu'ils préféraient accueillir des chrétiens. Mais on ne savait pas si ça s'était véritablement passé comme ça, jusqu'à ce qu'on apprenne par des hauts fonctionnaires récemment qui ont confirmé ce dont on doutait. Donc ici, ce ne sont pas juste les politiciens qui sont en cause, donc je me permets un peu aussi d'accuser peut-être quelquefois les fonctionnaires qui, là, c'est bien, ont fait des confessions à des journalistes, mais qui, pendant ou avant qu'une injustice soit commise, pourraient aussi se lever et refuser de travailler pour des intérêts partisans du gouvernement et penser peut-être un peu plus à l'intérêt public. Donc voilà, c'était mon éditorial du jour. Sinon, on peut respirer un peu. L'époque Harper est finie, elle est bien finie, c'est une bonne nouvelle, mais certaines personnes semblent un peu aveuglées par le charisme de M. Trudeau, donc les discours sont beaux, la communication est belle. Il y a eu quelques mesures quand même encourageantes, si on peut dire, mais il y a des, je sais pas comment les appeler, des intellectuels, des commentateurs comme Naomi Klein, entre autres, sur les questions environnementales récemment, qui faisaient valoir que beaucoup de gens ont laissé un peu tomber leur militantisme parce que les discours sont rassurants. Quand Trudeau est allé au sommet de Paris, il a dit exactement ce qu'il faut dire. Oui, on va protéger l'environnement, mais il n'y a aucune mesure, il n'y a aucun changement qui est véritablement annoncé. Donc, il y a un autre texte qui est paru récemment qui sonne un peu l'alarme aussi, qui s'appelle « Trudeau continues Harper assault on human rights ». C'est un texte de Mathieu, je ne sais pas comment le prononcer, Behrens, B-E-H-R-E-N-S. Peut-être que je le prononce correctement, on va l'espérer. C'est un auteur activiste qui collabore entre autres avec Homes Not Bombs, qui fait un peu le portrait du gouvernement actuel qui est encore récent, mais on peut quand même déjà dégager des tendances, donc qui parle un peu de complicité envers la torture, déploiement militaire en Ukraine, achat et vente de matériel militaire à des dictatures. La loi C-51, donc qui semble ne pas vouloir être abrogée, et la bromance un peu embarrassante entre Trudeau et Obama, les selfies en chest. Bref, il essaie un peu de nous réveiller, de dire hey, « attention, là, oui, c'est moins obscur que ce l'était, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, donc ne nous laissons pas aveugler. » Sinon, en immigration, le sujet qui nous intéresse aux apatrides, on constate aussi que ça bouge pas beaucoup depuis que le gouvernement est arrivé. Donc, il y a eu évidemment le fameux programme spécial pour les 25 000 réfugiés syriens. C'est bien, c'est une promesse électorale très ferme qu'ils ont répétée à de nombreuses reprises. Donc, il y avait plus ou moins le choix de réaliser cette promesse-là pour montrer qu'ils sont capables de les tenir. Mais sinon, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu quelques petites mesures. Par exemple, on a enlevé l'obligation pour les personnes mexicaines d'obtenir un visa pour voyager au Canada. Mais sinon, on ne semble pas vouloir vraiment modifier le système en profondeur qui, surtout depuis l'ancien gouvernement, est de plus en plus injuste et dysfonctionnel. Autre exemple de petite mesure qui est un peu là pour donner une belle image du gouvernement, une image de progressisme. Le fédéral veut créer un comité parlementaire sur la sécurité nationale et le renseignement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On sait que dans les dernières années, les différentes agences comme les services de renseignement de la sécurité, la Gendarmerie royale du Canada ont eu leur pouvoir, leur budget très considérablement élargi, sans que les mécanismes de surveillance de ces agences-là soient élargis. Donc, ils font un peu n'importe quoi. C'est assez opaque, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on souhaite créer un comité parlementaire chargé, attention, de veiller à la sécurité du pays et de protéger les droits des Canadiens. Donc, c'est un équilibre qui, normalement, est assez difficile à trouver. On sait que ce comité-là pourra se pencher sur les activités de la GRC et du SCRS. Pour ce qui est de l'Agence des services frontaliers, il semble que non. Donc, la composition du comité, attention, 2 sénateurs, ça c'est très utile dans la vie, 4 membres du gouvernement et 3 membres de l'opposition. Ces dernières... attendez, j'ai trop de sujets. J'ai trop de choses à dire. Je suis en train de m'enfarger et je crois qu'il me reste pas beaucoup de temps. Donc, que vont faire ce comité-là? Donc, Goodell a dit, attention, ce comité jouira d'un vaste mandat, sans préciser davantage. Je cite encore M. Goodell, notre ministre fédéral de la Sécurité publique. Les membres auront la liberté de présenter un rapport sur quelques sujets qu'ils auront choisis au moment qu'ils auront choisi. Fait que ça a l'air le fun, ça a l'air un peu tout croche aussi. Donc, le rapport va pondre des rapports une fois de temps en temps. Donc, est-ce que le comité de parlementaires qui surveille la GRC, le SCRS, va être consultatif? Est-ce qu'il va émettre des recommandations? Est-ce que les rapports vont être publics? Est-ce que les travaux vont être publics? Est-ce qu'on va caviarder tous ces rapports suite à des demandes d'accès, comme c'est le cas actuellement, avec le comité de surveillance du SCRS? On le sait pas. Puis, qu'est-ce qui arrive avec le comité de surveillance du SCRS? On le sait pas non plus. Est-ce que c'est juste un changement de nom de structure? Est-ce qu'on fait juste brasser un peu l'organigramme du gouvernement? C'est pas très clair. Donc, on va vous parler de ce comité-là dans les prochains mois. Il me reste, je crois, 2 minutes à peu près. Donc, OK. Fait que je vais vous parler. Ça, c'est un événement important. Ce sera mon dernier sujet. Il y a une grève de la faim des détenus de l'immigration durant l'été. Ils étaient une cinquantaine au début. Ça a commencé vers la mi-juillet. Ils étaient rendus une quinzaine à la fin parce que certains, évidemment, devaient arrêter pour des raisons de santé. Donc, une grève de la faim qui a duré en tout 18 jours, donc qui est terminée début août. Ça s'est passé en Ontario. Les revendications, bien évidemment, des meilleures conditions de détention pour les personnes détenues par l'Agence des services frontaliers, un meilleur accès aux soins de santé, durée de détention mieux contrôlée et ultimement bien, remettre en question le principe même de détention des personnes immigrantes qui sont emprisonnées dès leur arrivée au Canada. Donc, les grévistes de la faim souhaitaient rencontrer le ministre de la Sécurité publique, M. Ralph Goodell. Il a toujours refusé de les rencontrer, malgré des dizaines de personnes qui faisaient une grève de la faim. On calcule qu'au Canada, l'Agence des services frontaliers emprisonne à peu près par année 10 000 personnes. Les motifs, c'est des arrivées dites irrégulières, des doutes sur l'identité des personnes ou des soupçons par rapport à la sécurité. La fréquence des emprisonnements n'a pas baissé sous le gouvernement actuel puisqu'aucun décret ou aucune directive n'a appelé à modifier les pratiques qui sont actuellement en vigueur. Depuis 2000, au moins 15 personnes immigrantes détenues sont mortes en détention, dont 3 depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau. Ralph Goodell le répète constamment, la détention des immigrants, ça doit demeurer une solution de dernier recours, mais c'est pas le cas au Canada. C'est une solution qui est systématique dans la plupart des cas, et ça touche beaucoup d'enfants aussi, ce qui est assez triste. Donc, on a annoncé des mesures récemment. Donc, une des mesures fortes, je vais terminer là-dessus, c'est la construction de 2 nouveaux centres de détention des immigrants. Donc, malgré toutes les critiques, malgré les revendications, malgré les critiques même d'agences de l'ONU, qui dit qu'on devrait tranquillement aller vers la fin de cette pratique un peu barbare, on augmente les capacités de détention du gouvernement et de l'Agence des services frontaliers. Donc, on fait exactement le contraire. Mais ça n'empêche pas M. Goodell, toujours mon préféré dans ce cas-ci, de dire on veut rendre meilleur le système de détention des demandeurs d'asile. Donc, des investissements de à peu près 140 millions qui s'en viennent pour augmenter le nombre de prisons pour les personnes migrantes au Canada. Je vais arrêter là-dessus. C'est déjà assez dense, assez touffu. Donc, ça nous garde plusieurs sujets pour les prochaines chroniques. Mathieu sera là dans 2 semaines pour les apatrides anonymes.